vraiment parler de l'uniformisation qu'entraîne Marvel Studios en termes d'esthétique. On va maintenant passer à la distinguée concurrence, donc DC Comics et Warner. Du coup, depuis la création de l'univers partagé avec Man of Steel, chez DC, il y a le choix d'un réalisateur qui a entraîné sa patte esthétique, qui est Zack Snyder, qui est présente sur Man of Steel. Et qui aurait dû être présente sur Justice League, on va expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Mais à votre avis, déjà, est-ce que c'était le bon choix,
oui.
Snyder, sur Man of Steel?
Oula, oula.
Alors, Kefren, comme ça, tu pourras dire du bien de quelque chose ce soir.
Non, mais oui, Zack Snyder, c'était le bon choix. Zack Snyder était un bon choix, déjà dans le contexte où Zack Snyder se situait, vu qu'il sortait déjà de. Deux adaptations de comics consécutives, 300 et Watchmen, et que aussi pour adapter l'univers.
Entre parenthèses, d'après Frank Miller et Alan Moore, donc il a aucune cohérence déjà à la base.
Non, justement, ça montrait que justement il pouvait défendre les deux points de vue et qu'il n'était pas un réac comme on voulait le dire.
Il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite.
Ouais, exactement.
C'est un peu pour ça,
non, mais c'est juste. Et que je veux dire. Ah oui, et justement, et comme c'est un réalisateur qui a prouvé qu'il avait eu. Une esthétique très 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 forte et reconnaissable, c'était un bon choix pour DC de le mettre en avant et de lui permettre de réaliser, enfin, ce qui en amont devait être la trilogie Superman, c'est-à-dire Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League. Et c'est sa vision sur laquelle reposait la première partie du DC Universe, sa vision et celle de sa femme Deborah Snyder qui est productrice des trois films également.
Faut dire que le choix de la promesse de DC Comics, contrairement à Marvel, c'était de laisser libre cours à des réalisateurs qui avaient une patte forte, comme on en a parlé avec l'histoire de Warner, sur des personnages de super-héros.
Justin. Et je trouve que ça, il arrive quand même à l'imposer dans Man of Steel. Et puis même, c'est même un film personnel, parce que moi, je trouve qu'on retrouve pas mal de ces thèmes de tous ces films précédents. Par exemple... dans tous les films de Snyder auparavant, donc on a toujours un groupe de personnages qui souhaitent maintenir une sorte de pureté et qui sont oppressés par leur environnement. Donc on a ça dans l'Armée des Morts, on a ça dans 300, donc avec les Perses et puis les 300 qui se rebellent contre les Perses, on a ça dans le Royaume de Gaoul, même chose Sucker Punch, donc des personnages isolés qui essaient de protéger, voilà, de garder leur intégrité par rapport à leur environnement. Et ça, on retrouve de la même façon dans Man of Steel. Il arrive même à inverser, parce que le personnage qui tient un peu ce discours-là, c'est Zod. Donc il inverse un personnage de méchant qui a ce côté préservé, mais là, plutôt pour détruire plutôt que pour garder l'intégrité. Donc il arrive à garder... à prolonger ses thèmes dans le film, donc c'est vraiment un film personnel, même si on sent la patte de Nolan aussi, parce que la construction est un peu la même que Batman Begins, donc avec un personnage paumé au départ, et puis ensuite les origines s'amorcent progressivement, donc il a vraiment gardé sa patte, et il réussit même à se renouveler au niveau visuel, par rapport à toutes les scènes d'action. Ah, si, parce que
les scènes. J'ai pensé les sourcils, hein, pardon. Je l'indique.
Parce que les scènes de combat, justement, c'est pas du.
Jamais vu.
Il y a les scènes de combat.
On sera tous d'accord.
Il y a ce côté iconique, ce côté ralenti dont il avait pu abuser peut-être dans les films précédents. Là, c'est l'inverse. Au contraire, c'est comme si on avait un œil humain. C'est comme si ça avait un œil humain, c'est comme si sa caméra n'arrivait pas à suivre les déplacements de personnages surhumains. Et donc, par exemple, la bagarre à Smallville...
C'est vrai que c'est la même film, en fait, la bagarre à Smallville.
Parce... On suit les personnages surhumains, et c'est comme si la pré-réalisation n'arrivait pas à suivre. Donc il y a tellement ce côté, tellement ça va vite, et il se réinvente vraiment. Quoi.
Très bien.
Je vais rebondir, effectivement, ce que disait Justin. Il ne faut pas oublier aussi, avant tout, que c'était pas encore un film pensé pour être la base d'un univers partagé. Ça devait être une trilogie Superman... indépendante, toute seule, qu'on ne verra malheureusement jamais, et c'était donc une production Legendary qui est produit les Dark Knight. Donc l'idée, c'était que Nolan soit réalise le film à l'époque ou choisisse un poulain pour le faire. Il y avait plusieurs noms qui avaient été proposés avant Snyder. Snyder justement est arrivé plus tard dans la shortlist où ils avaient annoncé Duncan Jones, même Matthew Vaughn,
même Tony Scott.
Même Tony Scott, ouais. Et même Matthew Vaughn avait pitché une trilogie Superman pour Warner qu'ils n'ont pas fait. Ça devait être un truc à la Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire une grosse fresque en trois parties qui devait sortir une fois par an, je parle ça autour de 2009-2010. Et en fait, effectivement, sur ce film-là, Snyder n'a pas pu travailler avec son chef-op habituel, qui est Larry Funger, qui a travaillé sur tous ces films. Là, ils ont mis Amir Mokri, qui est le chef opérateur de gros blockbuster. Il a travaillé sur Michael Bay, justement, sur les Transformers. Et c'est vrai que l'idée, c'était de faire, avec le scénario de David Goyer, qui est quand même bourré d'incohérences, bourré de grosses ficelles en termes de péripéties de personnages. Voilà, là-dessus, ça c'est clair. Il en a fait un film quasiment naturaliste. Mais il est même allé plus loin que Nolan, parce qu'on en parle quand même d'un film sur Superman. Donc faire un film naturaliste avec Superman, c'est quand même assez compliqué. Et c'est ce que vendait justement la promo de départ, c'est-à-dire on voyait Clark Kent barbu sur le bateau, Clark Kent en train de faire de l'autostop. Et ce qui est quand même dingue, c'est que même ce côté naturaliste, il le fait sur la grosse séquence de Krypton qui ouvre le film, c'est-à-dire on reste caméra à l'épaule, on cherche pas à expliquer comment fonctionne Krypton, c'est voilà, ça fonctionne comme ça. On a des espèces de technologies à base de points.
La production design est dingue,
c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a du métal lourd, il y a une espèce de métal lourd, il y a même des espèces de
des dragons, de
vaisseaux en forme de pénis quand même, à un moment donné, qui vont dans la zone fantôme, il faut quand même le faire. Et c'est vrai que limite, cette partie kryptonienne pourrait être un court-métrage en soi, tellement elle est nickel. Et surtout, ce qui est assez. C'est pour ça que moi, alors, on peut parler de matière filmique. Quand on parle de Zack Snyder, d'une belle matière filmique, c'est qu'il y a un travail extrêmement élaboré sur Man of Steel. Il y a à la fois un réal qui se remet en cause, c'est-à-dire je ne fais plus mes espèces de ralentis accélérés qu'on pouvait voir sur 300, sur Watchmen, qui datent les films. Et quand on voit Man of Steel 4 ans plus tard, c'est un film qui a très peu daté, justement, parce qu'il y a une volonté de sobriété au plus possible. Même dans les effets visuels, on est dans des espèces de flash quand les mecs volent, quand ils volent super vite, mais il n'y a pas au-delà, il n'y a pas des effets de Death Proof, je trouve. Ce qui est intéressant aussi par rapport à Batman Begins, c'est que le personnage a besoin de passer par une déconstruction, c'est-à-dire Superman est en train de se former, il ne sait pas l'étendue de ses pouvoirs, donc ça fait qu'il fait plein de bêtises, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'explosions, mais aussi il faut passer par une phase de destruction. Tu parlais de Zod, effectivement, qui est dans une logique de supplanter
l'eugénisme,
mais Superman est dans une volonté tout aussi extrême quand il dit bah non, on recrée pas Krypton. Krypton a eu sa chance, c'est la Terre qui prime, en fait, qui prévaut, et ça va jusqu'à la destruction de la forteresse de Solitude, quand même, qui correspond à la destruction du manoir Wayne dans Batman Begins. Mais c'est vrai que ce point de vue-là, très extrême quand même sur Superman, sur une manière de penser, c'est-à-dire le personnage prend des décisions, et prend des décisions très extrêmes par rapport à ça.
Y compris à la fin, la manière dont il finit avec Zod.
C'est une décision extrême qui a beaucoup rebuté les fans de comics, parce qu'ils ne se retrouvaient pas justement dans cette conception du personnage. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas aussi le but du cinéma de casser justement notre conception d'un média?
Et puis c'est cette transgression qui construit après le Superman classique qu'on était censé avoir.
Je dirais qu'elle est problématique au sein de la construction du film, parce que comme tu le dis, le fait qu'il fasse des erreurs, le fait qu'il se cherche, je trouve ça plutôt bien, mais ça arrive à la conclusion du film. On arrive à la conclusion du film où le personnage est devant ce choix où soit il le tue, soit il ne le tue pas, et il n'a pas d'autre solution que de tuer son ennemi, alors qu'on arrive à la fin de sa formation. Et la fin de sa formation se fait sur cet acte meurtrier. Et le film n'arrête pas de nous dire, finalement, Superman est une figure christique. On sait qu'il a 33 ans quand il part à la découverte du monde, et c'est...
Il sort d'un vaisseau kryptonien,
plusieurs scènes où on le voit dans une position christique. Et donc, je trouve qu'il y a une incohérence à nous dire, d'un côté, Superman est un être quasiment divin et c'est une réincarnation du Christ dans l'Amérique d'aujourd'hui, parce qu'il y a aussi un nationalisme qui est présent dans le film. Et de l'autre côté, il a raison de tuer Zod à la fin de sa formation. Et c'est en ça que ça pose problème.
Non, mais ce que je veux dire,
pour
c'est
moi,
que...
si on avait cette conception divine de Superman, ok. Ou si on avait un Superman qui se cherche et qui tue quelqu'un, ok. Mais avoir les deux dans le même film, c'est assez problématique. Jérémy,
je vais trop parler. Non, mais justement, c'est ce qui est intéressant dans Man of Steel et dans les films qui suivent, c'est qu'on interroge l'humanité de Superman et de Clark Kent, et on voilà, c'est une figure christique, mais en même temps c'est le plus humain de tous, Et il fait des erreurs et d'avoir tué quelqu'un, c'est quelque chose d'humain. Il a laissé sa rage parler et c'est son humanité qui est ressortie à ce moment-là. Et l'humanité, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de pire chez lui. Finalement, c'est il tue quelqu'un et c'est son humanité.
T'es sûr que c'est présenté comme une erreur à la fin du film?
Non, c'est pas vraiment une erreur.
Pour moi, on voit Zod qui
il a pas le choix.
Regarde
il a
pas personne et en gros, il dit bon bah. Si tu passes Zod maintenant, il va tuer tout le monde.
Et pour sauver l'humanité, il tue une personne.
Oui, bah. mais du coup, le choix est problématique quand on dit que c'est un personnage qui...
Mais c'est un fardeau qui porte
non, justement. Oui, en plus, quand tu vois la réaction du personnage,
c'est un fardeau de la fête,
tu sens que c'est une transition, c'est un crève-cœur.
Justement, voilà, il y avait déjà la réaction du personnage, mais en plus, il y a après la réflexion qui suit dans Batman et Superman et qui est amorcée justement par cet accès. Il ne peut pas y avoir de super-héros propres. Ça veut dire que dans notre époque, exactement, il n'y a pas de gens propres, de gens divins, de gens christiques. Ça n'existe pas. C'est que des gens qui sont emprunts au doute et trucs. Même si on essaie de les iconiser,
de les mettre en place. Je suis désolé, dans la première partie de Batman,
justement, il te déconstruit. Oui, il te montre du point de vue humain, il te montre du point de vue humain ce qu'est la figure de science. C'est bizarre, presque une figure diabolique
pour et c'est ce pour les travaille, gens, pour les gens après dans la suite justement.
Mais oui, pour les gens, il te montre le contre-champ justement du combat de Superman versus Zod et il te montre que
c'est le point de vue de Batman mais le
Non, c'est le point de vue des gens sur Superman. Oui, il te montre que les gens ne voient pas en lui un Christ. Lui, il essaie d'être le Christ, mais les gens ne voient pas en lui ça.
Et c'est
ça,
Superman y arrive.
Superman, non, il n'y arrive pas, il n'y arrive jamais, et même dans Justice League, il n'y arrive pas justement, parce que
je n'ai parlé,
mais justement, dans Batman Superman, il n'y arrive pas, il est toujours emprunt au doute, et c'est ça que me montrait Snyder, c'est que il n'y a pas de super-héros propre, il n'y a pas de super-héros unilatéral qui représenterait le bien absolu. Il n'y a pas
d'absolu. Ce fardeau qu'il porte en permanence, c'est intéressant.
Et justement, c'est pour ça qu'il le dépeint dans notre époque. C'est parce que on vit dans une époque confuse et justement il te montre que la confusion qui règne dans notre temps est celle qui est au sein même de l'esprit des héros.
Je suis désolé, moi je vois aucun doute dans la manière dont Superman est montré au début de BVS. Pour moi, c'est une figure qui accepte effectivement.
Oui, mais à côté de ça, t'as plein de passages.
C'est ce qu'on voit.
C'est toujours le point de vue de la population.
Il y a différents points de vue dans le film. Il y a le point de vue de lui sur lui-même, le point de vue des gens,
le point de vue de
Batman sur Superman.
Comment lui se voit.
Exactement. Et
c'est
ça
qui est unique, c'est le point de vue des. Tu vois bien. C'est le point de vue des gens qui le voient comme
le point de vue de Batman qui le voit comme
Batman veut le détruire.
Mais Batman a tort vu que le film montre que Batman a tort.
Non, il a pas tort justement. Dans la version longue, on te montre que les deux se voient chacun comme l'événement qui pourrait contredire leur cheminement le bien de la société justement.
Fabien,
je voulais juste c'est marrant parce qu'on rejoue le débat, mais je rappelle que dans le Superman 2 de 80, Superman tue Zod.
Enfin, pas explicitement.
Non, mais il le fait consciemment, mais il le fait sans aucune pointe de remords. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui interroge les gens, c'est le fait qu'on voit que ça a un impact sur lui. C'est-à-dire le mec il se met à genoux, il pleure. Enfin, c'est comme s'il avait terminé l'anéantissement total, c'est de sa propre civilisation. Ce qui est important aussi, c'est que la figure christique, elle n'existe que parce que nous la percevons. Et que même Jésus, il disait à un moment donné, vers la fin, il prenait la voie du talion, hein, parce que ça devenait tellement le bordel que même lui, en tant que figure christique, ne pouvait que dire « vends ta cape et prends une épée ». Quoi. Et c'est intéressant parce que le fait que Snyder adresse ça sur Superman, l'adresse, mais développe les conséquences là-dessus après. C'est-à-dire, on a Batman v Superman qui aurait dû être
c'est
film.
La seule partie intéressante de Batman v Superman.
Non, mais c'est un film où on te dit, ok les gens, vous n'avez pas aimé que Superman tue, ça vous a dérangé, ok. Rien pour vous emmerder, je vais faire un film là-dessus, sur les conséquences du choix du héros.
Et du coup, moi, en voyant Batman v Superman, que je n'aime pas,
oui,
à la base, mais il m'a aidé à réhabiliter encore plus Man of Steel en fait. Et c'est au moins ce que je
lui conseille. C'est un
chaque film
il y a un côté conséquence, action-conséquence, qu'on voit chez Marvel, mais qui est plus minimisé. Je veux dire, Tony Stark, il a son trauma dans Iron Man 3, ok, ça va. Mais le fait est qu'on qu'on passe, alors j'ai pas envie de dire...
Je trouvais ça plus cohérent dans la transition entre Avengers 2 et Civil War sur le personnage de Tony Stark.
Mais des héros tragiques comme ça, t'en auras pas chez Marvel.
L'idée intéressante, c'est de rejouer une scène qu'on a déjà vue, donc la scène de la fin de Man of Steel. J'ai pas envie de dire que c'est Sarah Shawman, mais c'est-à-dire...
J'ai pas envie de dire que c'est Sarah Shawman, mais
à un moment donné, chacun a sa vérité selon une perception d'un événement. C'est-à-dire... Clark a sa vérité parce que lui, il n'avait pas le choix. Mais Bruce Wayne, il a une vérité parce qu'il a vu ses employés de bureau se faire défoncer, cette petite fille qu'il a sauvée, une extrémiste. Donc, il y a une vérité chez lui qui est forte. Même si ça ne veut pas dire qu'on doit encourager ses actes.
C'est intéressant sur la notion d'extrémisme.
Voilà.
Et c'est intéressant de dire pourquoi ces gens-là, ils font ça. Et pourquoi ils pensent ça.
C'est ça qui est fort, c'est de faire ce film maintenant, en 2015.
Et dans Justice League, c'est aussi intéressant. Au début, il y a des gens qui sont là. Il y a des questionnements dans Justice League que tu ne retrouves pas dans les Marvel. Même si le film est raté, tu as quand même des questionnements. Au début, tu as des extrémistes qui sont là.
Ça dure 5 secondes.
Mais c'est présent, c'est là, en tout cas.
C'est quasiment la seule dans les 5 premières minutes.
Oui, évidemment.
Par contre, pour rebondir sur ce que disait Fabien, quand il parlait de Superman 2, parce que c'est bizarre qu'on fasse ce genre de reproche à Man of Steel, alors que tu parlais de quand il tue Zod, il y a un moment encore pire que ça dans l'idéal que tu es censé te faire de Superman. Je sais pas si tu as à un moment donné du film, il perd ses pouvoirs, il se retrouve, il a une altercation dans un bar, et puis il se fait malmener par un gros bras. Le film se termine, donc il a retrouvé ses pouvoirs à la fin du film, il revient comme le dernier débauche avec ses pouvoirs dans le bar, et puis il fout une rousse au type.
Ça, c'est pire que ce qu'on peut voir dans Man of Steel. Dans Superman 2.
Oui, Superman 2.
Alors que c'est censé être le. Dans Superman 2, il est censé avoir dépassé.
C'est 10 fois pire parce qu'il n'y a pas d'enjeu à sauver le monde, il revient juste, voilà. C'est comme une raclée quand j'étais faible tout à l'heure. Là, je reviens, puis je vais mettre une petite correction, je vais me venger. Comme le dernier débauche. Voilà.
Alors dans Man of Steel, il défend juste le canon du mec.
Mais en plus, c'est à vie, je crois, ça marche.
Pour revenir sur ce que tu disais justement sur le questionnement, sur l'extrémisme qui peut toucher et la différence de point de vue par rapport à un événement donné et les questions justement un peu centrales qui peuvent se poser aux spectateurs. Je trouve ça dommage justement que dans Batman vs Superman, la confrontation entre Superman et Batman se finit sur l'histoire de maman. Et non,
mais c'est beau, alors, ça, c'est une belle idée.
Alors que justement,
c'est une belle idée.
Ils auraient pu pousser le questionnement et le règlement du conflit entre les deux sur un terrain beaucoup plus.
Mais non, parce que justement, quand tu passes une heure à te montrer que la chose la plus importante, c'est leurs parents, l'autre, ses parents sont morts et l'autre, c'est sa mère. C'est pas gnangnan. Attends, les parents, c'est gnangnan.
Non, c'est pas gnangnan, mais le traitement de Martha.
Le traitement, attends, on passe une heure à te montrer que Superman, son seul repère dans sa vie,
c'est
sa
mère.
Son père et sa mère. Batman, on te dit.
Je suis d'accord avec toi, Batman de Superman sur la mort des parents de Bruce Wayne. Oui, je suis d'accord avec toi. Juste la manière dont c'est chez.
C'est complètement incohérent déjà avec.
Vous avez pas de cœur par rapport à Bruce Wayne.
Le fait qu'il soit pas au courant que du personnage de la mère, lui qui est supposément qui est monté comme un enquêteur pendant quasiment tout le film, et qu'il soit pas au courant de l'histoire du passé de Superman machin, et qu'il rentre dans le fion sans en connaître 10% de sa vie machin.
Mais si augmente stupide, il fait une enquête. Il est aveuglé par la haine.
On te montre un Batman de 40 ans qui en a vu, je sais pas combien pendant des années, et on te le montre comme le premier Gogol qui va foncer.
Mais justement, on monte sur l'extrémisme. Mais c'est ça justement qui sont pétés. Ils sont quoi? 200 aveuglés par une idée.
On te dit jamais que Bruce Wayne est dans le vrai dans le film.
Mais bien sûr,
d'accord, mais c'est incohérent par rapport.
Je déconne.
C'est incohérent par rapport à la manière dont il est montré à certains moments du film.
Mais non, justement, il n'y a rien d'incohérent dans le film.
Le personnage au niveau de l'écriture est incohérent, je trouve.
Mais non, la trajectoire de Batman n'a rien d'incohérent dans
l'arc de ce Bruce Wayne là, c'est qu'il est passé de l'autre côté. C'est comme si on avait repris le Batman de Burton, mais puissance 10 en termes de vigilantisme, c'est-à-dire que le mec.
Oui, c'est vrai qu'il y a les photos. La chauve-souris.
Le mec, c'est un vigilant.
Non, mais le Batman de Burton.
Ce qui est intéressant.
En fait, ils veulent te le montrer comme ça, mais la manière je sais pas, c'est la manière de Ben Affleck de le jouer ou de le montrer dans une bonne partie de Batman et Superman, ça correspond pas. C'est, en fait, il si y a une manière de jouer le personnage et de le montrer, il y a des moments d'incohérence comme ça.
Il la terrorise,
Mais oui, mais donne un exemple, le mec il est en bloc et on te montre quand il va tenir les criminels, il les tatoue comme des bêtes et tout.
Mais oui, comme alors, ça, c'est des trucs qu'on te montre.
Je vais revenir à la question, on voit une photo, il attrape des mecs, il les attrape au fer, on le voit,
Batman est présenté comme un démon, demande dans l'ombre, et les mecs ils flippent de savoir où est Batman. Mais non, même dans la version courte aussi.
La première scène on voit Batman, il est où? Il est dans l'ombre.
Ouais, il est dans l'ombre.
Et après il le marque au fer rouge.
Il le marque au fer rouge le mec.
Je crois que c'était une photo.
Non, non, t'as tort, c'est tout.
En fait, je fais juste une petite parenthèse, c'est que comme tout personnage de comics, Batman a eu tellement de versions différentes qu'ensuite ça incombe au réal de choisir la version qu'il veut. On va prendre les deux dernières versions, donc celle de Nolan et celle de Snyder. Chez Nolan, on te dit clairement que c'est un personnage, c'est pas dit, mais c'est un démocrate, dans la logique américaine, avec un côté un peu lord anglais, hein, quand même, hein, parce qu'on sent une fibre british très présente. On dit que c'est une famille où le côté philanthrope, c'est limite dans leur gène. C'est-à-dire que l'arrière-grand-père de Bruce Wayne avait une caverne pour planquer des esclaves pendant la guerre de sécession. Thomas Wayne a utilisé son argent pour faire un métro qui réunit toutes les parties de Gotham City. Bruce Wayne il va salir le nom de sa famille pour devenir le justicier qui va libérer Gotham. Donc c'est une position...
Tout en ayant dans Dark Knight ce penchant vigilante qui se menace...
Voilà, mais il lutte contre la pulsion de tuer. C'est
une trilogie sur ça.
Voilà, sur ça. Alors que chez Snyder, on te dit clairement... On te dit que c'est une famille qui a eu du pouvoir, peut-être républicain un peu réac, parce que qu'est-ce qui se passe? Thomas Wayne, pourquoi est-ce qu'ils se font buter les parents? C'est parce que Thomas Wayne veut aller buter leur agresseur, parce qu'il va pour le tabasser, c'est pour ça qu'ils se font tuer. Donc c'est une erreur du père, première chose. Deuxième chose, Bruce Wayne dit, dans ma famille, on est des chasseurs de père en fils, c'est-à-dire que, mon grand-père, il était avec Leonardo dans Revenant en train de faire du bise avec les Indiens. Et pendant tout le film, on dit que la famille Wayne, c'est des espèces de mecs qui aiment bien les guns, qui aiment bien la chasse. Et c'est
très adroit,
Batman. Et c'est pour ça que le Batman de Snyder, c'est un mec qui...
C'est
un mec qui est allé au-delà, justement, du Batman de Miller. C'est-à-dire, le Batman de Miller, c'est un anarchiste, mais... Le Batman de Snyder,
c'est là sont encore plus poussés dans le film.
Non, mais c'est un gros facho, Batman.
C'est le mec qui se passe 2 heures à chasser le seul étranger qu'il voit dans le ciel.
C'est un film sur ça. Il voit l'alien.
Il y a un alien qui fout le bordel et le mec il passe son temps à chasser le seul.
C'est le méchant Batman, bordel.
C'est le méchant.
C'est Trump, Batman.
Je disais
juste qu'il faut que le Bruce Wayne de Snyder, en fait, il est quand même beaucoup plus vieux. Il a déjà quand même vu tous les méchants possibles. Bon.
Mais bon, Robin qui est mort et tout,
Maintenant il voit Superman. Là il se dit peut-être qu'il se. Enfin, là, à mon avis, je pense qu'il réagit comme ça parce qu'il a une force. Il ressent une sorte d'impuissance face à ça, s'il devient une menace, qu'est-ce qu'il pourra faire?
Mais c'est intéressant parce qu'on te montre le cheminement de pensée et pourquoi ces gens-là ils arrivent à vouloir buter l'étranger qui arrive, quoi. Il te montre pourquoi. C'est pas des gens forcément foncièrement, c'est pas des gros connards, c'est pas des gens simples.
Le mec, il est plus jeune, il est étranger, il a plus de pouvoir.
Voilà. Ouais,
il est plus beau. S'il décide d'être contre moi, je suis niqué, donc autant le niquer avant.
Il a des trapèzes, c'est même pas des trapèzes.
La première chose que je comprends pas dans l'écriture de ce Batman, moi quand j'ai vu Man of Steel, je me suis dit, limite à la fin, si Superman tue, on va avoir une opposition avec un Batman qui vient de la ville, qui sera plus vieux, mais qui aussi refusera le meurtre de Superman. C'est pas le cas. Batman est tout aussi extrême que Superman.
Mais c'est ça le but du mec. Il y a personne de propre
dans le film. Du coup, l'opposition avec Superman, elle est déjà pas vraiment idéologique. Finalement, c'est deux figures qui sont semblables. Et
Mais ils sont pas, c'est pas ce qui tue tous les deux, des gens qui sont semblables.
C'est pas sur les méthodes, c'est sur le statut.
Oui, c'est ça. Mais oui, c'est sur ce qu'ils représentent, justement.
C'est quand même les il y a eu des oppositions hein, dans les comics de DC sur le fait que Wonder Woman était une guerrière et pouvait tuer. Superman pouvait prêter la sourde oreille.
Mais on ne parle pas du comics, on parle du film de Zack Snyder.
Je vais revenir là-dessus. Du coup, cette opposition m'intéressait. Elle n'est pas traitée dans le film. Et le fait qu'ensuite, à la fin, ils partent juste sur quelque chose de sentimental et un prénom qui revient, ça tout d'un coup, ils se disent « Ah mais oui, mais c'est vrai, en fait, je voulais te tuer depuis 2 ans. »
Mais non,
ça nous renvoie à la mélancolie de Man of Steel.
Mais finalement, parce que tu es aussi humain que moi, bon bah, du coup, c'est cool, et tu deviens mon meilleur pote.
Il ne devient pas son meilleur pote. Même au début, ils se disent juste ok, c'est pas le mec que je croyais ou que ça fasse.
C'est pas mon ennemi.
Voilà, exactement. Mais ils deviennent pas potes.
Ce qui est intéressant, c'est que Man of Steel, c'est un film sur les figures paternelles. Et que BVS, c'est un film où toutes les instances de régulation paternelle n'existent plus. Même Alfred a plus de poids. Et c'est dans celui-là où les figures maternelles sont beaucoup plus importantes.
Oui. Mais même Lex Luthor, il capture sa maman et lui dit « J'ai capturé la chose la plus précieuse pour toi. » Et lui dit « Ah non, j'ai sauvé Lois. »
Wonder Woman, elle n'est jamais adressée dans le film comme une femme. C'est-à-dire, elle intègre le trio et ça se fait naturellement. Voilà, on s'interroge juste sur... est-ce qu'elle est gentille, elle est méchante, on ne sait pas trop. Mais le film, c'est elle d'ailleurs qui est au centre du trio, quoi.
Mais dans Justice League, par contre, son statut de femme,
il est plus important. Et encore plus dans le film de cette année, là, son film solo, quoi. Oui, on l'abordera après. Mais
c'est un peu balourd.
Mais je trouve que l'aspect Martha, peut-être qu'il est très mal amené dans l'exécution, mais dans le fond.
Mais c'est beau.
Le déclencheur est pas mal parce qu'il est préparé dès la toute première scène du film.
C'est en termes d'intention, ça. C'est pas croire que la chasse du Batman va s'arrêter tout d'un coup parce qu'il entend le nom de Martha. Soit il est dans cet extrémisme poussé dont vous parlez, et du coup, il va pas s'arrêter et ne pas tuer Superman à ce moment-là où il est à sa merci parce qu'il entend ce nom. Soit le personnage est mal écrit.
Tu te bases sur quoi, Quentin? C'est quoi des trucs de réalisme, de cohérence? C'est pas incohérent. Donc, ce que tu te sens sur quoi, tu te bases, c'est un certain réalisme. Le film n'est pas du tout dans ça,
je l'avoue, sur Man of Steel, je vais pas critiquer les qualités du film, sauf les incohérences scénaristiques, et notamment la mort de Kevin Costner, qui, moi, m'a sorti du film. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu cette espèce de. D'épiphanie où je me suis dit, bon, c'est pas possible ce que je regarde.
Mais c'est bon, quoi. Il sacrifie pour protéger secret son fils, quoi.
Je vais finir ma phrase si on va là-dessus. Mais c'est juste que je me dis, cette vision de Superman, c'est pas du tout une vision que j'accepte et qui est un Superman que j'apprécie. Et quand j'ai vu BVS, en dehors des défauts de construction du film qui sont quand même énormes, parce que j'ai vu la version longue et ça change rien parce qu'il y a quand même 40 minutes. Qui sont pas vides.
Parce que la version longue.
Vous dites que les films Marvel sont jeux alors qu'ils finissent tous pareil.
Cette version qui m'est proposée de Batman, c'est pas une version avec laquelle je suis en accord. C'est pas un Batman que j'apprécie, c'est la vision de
Snyder. Mais par rapport à quoi? C'est-à-dire par rapport à toi, lecteur de comics, il connaît les différents Batman et tout. Dis ça.
Par rapport à ce que
j'ai. Mais une œuvre d'art, c'est pas ce qu'on attend. C'est si tu on te la sert, l'œuvre d'art.
Mais oui, c'est ça.
Mais moi, je suis ouvert à toutes les
choses. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas? Tu l'as pas accepté, mais c'est pas mauvais en soi.
Non, j'ai pas dit que c'était bon ou mauvais. Je me suis juste dit, Man of Steel, c'est un vrai film. Pas d'accord avec la vision.
BVS, c'est un vrai film.
Tu veux pas dire que c'est moyennement.
Pas d'accord
avec la vision de Batman.
C'est-à-dire, enfin, ça veut pas dire qu'il n'est pas la bonne, parce qu'elle a existé aussi dans les comics. Alors, la scène de la mort de Kevin Costner, c'est très simple. C'est que le monteur du film de Man of Steel, David Brenner, a une clause dans son contrat qui indique que toutes les scènes où un chien est impliqué, il faut que le chien survive. C'est-à-dire que le mec a monté Independence Day, la scène où il a Independence Day, le chien survivait. C'était lui hostile, c'est pour ça que le chien survit. C'est parce que c'est le monteur qui a dit écoutez, le chien, il faut le sauver.
Il faut voir, c'est une blague. Il a dû monter Geostorm aussi.
Je crois qu'il a été conseillé dessus. Voilà.
Mais cette scène, elle est quoi? Sa façon, quoi, c'est ridicule le fait qu'il meurt comme ça,
mais ça n'a aucun sens.
Mais non, mais dans l'idée, c'est l'idée. C'est un film, c'est un film, c'est un film, c'est un, c'est, c'est, ça part d'un idéal. Et,
mais
ce mec, il se sacrifie. Non, mais il se sacrifie pour protéger.
Mais
non,
sont pas actualisés.
Mais si, mais c'est très beau. Le regard final de Clark à son père, c'est beau, quoi. Je suis désolé, c'est beau.
Mais dans l'idée, en fait.
Il y a plus de cinéma là-dedans que dans 1h30 de Marvel.
Exactement.
Il y a cette scène dans BVF, dans la version longue, où il voit le spectre de son père sur la
montagne.
Le mec, il monte sur la montagne limite pour crever.
Il voit son père.
C'est pas la version. J'ai pas vu la version longue. Je connais cette scène.
Ah bah alors c'est
pardon. C'était dans la version. Dans la version longue, il y a une scène avant où il rencontre des gens en bas de la montagne et les gens disent putain, lui, il est venu pour mourir.
Pour mourir. Oui, c'est ça.
C'était ça.
Oui, mais
il y a un côté nietzschien
là finalement ce que je disais c'est que je suis pas d'accord ou pas.
T'as pas Nietzsche, t'as My Dugger, ça.
Non, mais on peut critiquer, mais en attendant on a plus parlé de fond. Depuis qu'on parle de DC, on a plus parlé de fond.
Voilà, alors que Marvel, on parlait pas de ça. J'allais
évidemment, il n'y a pas de fond dans Marvel.
Non, mais les problèmes,
j'aimerais bien parler de fond dans Marvel, mais
ça fait un trou surtout.
Le problème de Batman vs Superman, finalement, bon, moi je peux être d'accord ou pas avec la vision de Snyder, c'est finalement ça me regarde, on peut en discuter, mais c'est vraiment un problème de construction et de production du film qui est que, effectivement, au début, Snyder...
Ouais, t'as l'impression qu'il y a 20 mecs, t'as Snyder et t'as 20 mecs à côté et ils ont tous des idées différentes de la direction dans laquelle ils veulent aller.
Oui, mais là, du coup, on parle du problème de DCE en général.
Oui, mais bon, c'est trop du film quand même.
C'est le problème qui se voit quand
c'est pas les intentions seulement.
Sauf que, oui, mais c'est à partir de BVS qu'il a commencé à avoir les problèmes de...
Non, mais déjà, on va parler juste de visuel. Snyder, il est arrivé sur Man of Steel, il a mis sa patte et après, c'est une charte visuelle qu'il a imposée. Il y a un style uniforme, quoi, je veux dire, il a imposé quelque chose.
Et peu importe, ça donne pas
des... Non, mais dans Marvel, il y a quoi comme idée visuelle, quoi comme style.
Quand on regarde BVS, ça donne pas un bon film parce qu'il y a une patte, visuelle. Moi, tu prends certaines scènes, la scène où Batman va sauver Martha, elle est absolument géniale en termes de mise en scène,
de narration.
C'est excellent.
Mais il n'y a même pas la moitié de ça dans Marvel.
Peu importe, le film ne vient pas en tant que film.
Je comprends.
C'est un problème. Oui. On parle de cinéma. C'est-à-dire, un film, c'est aussi une œuvre qui a, du coup, qui a une cohérence interne. Mm. Batman vs Superman.
Oui, mais ça a une cohérence interne. Mais après, il y a des moments moins réussis que d'autres, mais le film a une cohérence.
C'est pas des moments moins réussis que d'autres, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression.
C'est-à-dire, les 40 dernières minutes sont catastrophiques.
Attends, t'as pas l'impression de regarder un film devant Batman et t'as l'impression de regarder un film devant Marvel.
Les 40 dernières minutes, qu'est-ce que t'as à dire sur les 40 dernières minutes?
Ce que j'ai à dire, c'est que vous bouffez ces 40 dernières minutes à chaque Marvel et vous dites jamais rien. Vous bouffez les trucs en CGI avec des Marvel à chaque film et vous dites jamais rien. La fin de Avengers Age of Ultron, c'est du CGI dégueulasse. La mort de Flash et la mort de Vivarge est complètement incohérente. On en reparle comme ça dans toutes les phases de film et vous jugez jamais rien. Alors arrêtez de me saouler avec les 40 dernières minutes de Batman.
Oui,
parce que quand c'est Marvel, vous dites jamais rien.
On peut remplacer une. Techniquement, c'est il y a 15
minutes. On sort du comparatif. Je te parle juste, t'es devant un film, t'es devant Batman.
Mais celle-là, elle a raté.
Merci, c'est tout ce qu'il y a à attendre.
Qu'est-ce qu'il y a à attendre? La scène contre Doomsday et tout.
Mais ça, on s'en bat les.
Mais oui, voilà, c'est ça,
on va faire du film.
Mais ça, c'est pas 40 minutes, ça, c'est pour les branlos qui veulent faire. Oh, le méchant, on s'en bat les.
C'est pas le temps du film.
Le film fait 2 heures, je sais pas combien. T'as 40 minutes de.
Y'a pas 40 minutes de baston, arrêtez de mentir.
Y'en a. À partir de la scène du rêve.
Non, pas 40 minutes de baston contre Doomsday, arrêtez de mentir.
Le seul truc fort que je retiens dans BVS, c'est le côté on va teaser les nouveaux persos en plein milieu du film.
Voilà, ça c'est complètement con.
Ça c'est idiot. Alors,
le rêve par exemple aurait mieux fait d'être à la fin, des choses comme ça.
Ok, j'ai fait attention au timecode. La fin du combat entre Batman et Superman et le début du combat contre Doomsday, il reste exactement 40 minutes de film. Ouais.
Mais le combat en soi ne fait pas 40 minutes, tu vois pas 40 minutes.
Mais il n'y a rien autour du combat. Enfin, c'est juste
du film. Et la fin du film,
la fin du film et tout, l'éternel et tout, c'est beau.
C'est 5 minutes.
Là où je vais mettre de la nuance par rapport.
En plus, le combat se diffuse en plusieurs parties où il va sur l'île et tout, et après il y a toutes les choses de transition où il se recherche.
C'est bon, on a gagné.
Là, il faut mettre de la nuance aussi sur Snyder, parce que là, il faut aussi un débat de bonne foi. C'est que Snyder est avant tout un très grand formaliste.
Bah oui.
Pour moi, c'est un mec à la Ridley Scott, ou même c'est un mec où il va te faire la putain d'image, quoi. Il va la faire.
C'est ce qu'on veut.
Oui, c'est ce qu'on veut, d'accord.
Mais
c'est vrai que sur BVS, qui a été un film très très compliqué à faire, on voit que des fois, par moment, même si c'est un film que j'adore, par moment, on voit que des fois, on a un assemblage de scènes où des fois, il y a des problèmes. C'est-à-dire, des fois, on a un cut noir Et on se dit, merde, pourquoi on a ce cut noir en plein milieu du film?
Parce que la version longue, il n'y a pas ce problème.
Si.
C'est la même chose. C'est exactement la même chose.
Et c'est là que, comme tout grand formaliste, on le voit même avec des poids lourds comme Ridley Scott, c'est que des fois, ce qui n'est pas le cas d'un Nolan, sauf sur Dark Knight Rises, c'est qu'ils n'ont pas de prise suffisante sur leur script pour se poser la question de est-ce que tout est cohérent? Il y a des incohérences sur BVS dans le script, en plus de la pression qu'il a subie pour préparer Justice League, mais que tu as aussi dans Man of Steel, sauf que dans Man of Steel, l'efficacité et la fluidité font que tu ne vois pas les petits problèmes. Alors, dans BVS, ça te saute à la figure parce qu'il y a des petits...
Faut parler du montage.
Non, je suis d'accord avec toi, mais après, c'est qu'est-ce qu'on cherche dans un film,
voilà. Mais moi, je préfère BVS à Avengers, ou, tu vois, parce que la matière filmique et les questions qu'il me pose m'interpellent plus que dans Avengers où c'est une belle coquille vide.
Ouais, ça parle de il y a des questionnements, intéressants. Et puis même visuellement, quoi, mais je sais pas, même en une scène, quoi, je sais pas moi, il y a une scène où il y a des scènes, même une beauté picturale, tu vois, il y a Superman qui est couvert par la foule et qui sont tous là, c'est magnifique, quoi, visuellement.
Moi, je suis d'accord avec toi, moi, il n'y a pas de problème formellement au Snyder, mais il y a le problème de ces 40 dernières minutes.
Non, mais après, qu'est-ce qu'on attend d'un blockbuster, qu'est-ce qu'on attend d'un film?
Mais moi j'attends un bon film de la première à la dernière minute.
Non, mais ça existe pas.
Ouais, c'est un film où c'est bien de la première à la dernière minute, j'attends.
Mais que tu
cites un film où. Mais pourquoi tu l'as dit alors? C'est un film qui est bien de la première à la dernière minute, j'attends. Non, ça, où il y a zéro raté, zéro
win. 40 minutes, c'est pas beaucoup pour
toi. 40 minutes, Spider-Man 2.
Non, tu vois ce que Snyder.
Non, mais après, vous êtes des énormes mythes comme ça, marche. Je sais pas d'où ça sort en mode. Oui, moi je veux voir un film qui est bien de la première à la dernière minute.
C'est une attente. Tu t'attends pas à un film qui soit bien du début à la fin quand tu vas
voir. Je m'attends à être emporté dans une expérience, mais je m'attends pas à que tous les deux minutes vraiment hyper bien. C'est pas 40 minutes, effectivement. Juste Dark Knight. Et même, il y a des scènes ultra picturales contre Doomsday. Je vous fais arrêt image sur Doomsday, ça nique tous vos marques.
C'est du fond vert, quoi.
Non, c'est pas du fond vert. C'est hyper travaillé. Il y a du clair-obscur et tout, et de la peinture. Vous connaissez rien.
Le final qui est repris d'Excalibur de Bourman en plus.
Non, mais ça marche pas sur un film quand tu fais un
arrêt. C'est une référence,
quand tu issues une scène d'une scène.
Non, ça veut dire que techniquement, il y a cette l'image est travaillée, c'est-à-dire elle est compréhensible. Vous faites, vous chipotez en mode, mais sans
doute.
Ça devient pas de la bouille, Si tu veux, sans doute, vous cherchez, vous verrez. Regarde le film, quand ça n'a pas l'image sans doute, c'est pas dégueulasse comme les
Marvel. Non, juste le. On parle là, alors,
il y a une picturalité qui est absente de vos films Marvel, même dans le combat.
Même si Jérémy dit c'est pour les beaufs, les machins, les grosses scènes spectaculaires dans les
films. Mais j'ai jamais dit ça, moi.
Ouais, t'as un peu dit ça.
Non, j'ai extrapolé.
Revenons sur la scène.
Avec la gestuelle qu'elle est.
Revenons. Non, j'ai dit c'est pour les geeks. J'ai pas dit c'est pour les beaufs. J'ai dit c'est pour les branlos. C'est pas pareil.
Revenons juste sur la scène de Smallville dans Man of Steel.
Arrêtez de vous branler, les gars.
Juste la scène de Smallville dans Man of Steel avec. Tu ressens l'impact, les décors qui pètent, la vitesse des combats, comme disait la mise en scène de Snyder, qui donne l'impression de ne pas pouvoir suivre les mouvements tellement ça va vite. Bon, il y a du fond vert aussi, hein. Mais il y a un tel soin dans le côté formel, dans les effets spéciaux, dans la manière de te faire ressentir les impacts.
Comment on en revient à ce qu'on attend dans un film, tout simplement. Moi quand je vois des boum boum, quand je vois des bagarres, je m'en bats les couilles, quoi.
Oui, d'accord. Mais c'est ce qu'on voit dans BVS.
Mais je veux dire, à un moment, t'as une info pour Batman.
Oui, et dans Marvel, c'est ça.
Mais l'affrontement contre Babel vs Superman, il est bien.
Le montage nique toute la scène.
Mais non, il est vachement bien, l'affrontement vs Batman.
Regarde la précision du montage dans Man of Steel, dans la scène de Smallville. T'as des putains de mouvements super rapide. À un moment, t'as Farah, je sais pas comment s'appelle la méchante. Elle dégomme des militaires.
Oui, mais
façon super rapide, c'est un espèce de mouvement super
sensé. Voir deux kryptoniens voir Batman qui a affaibli Superman se battre. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout.
Superman est un tout petit peu moins fort, en fait.
Voilà. Non, mais tu veux que le film s'arrête alors que ce n'est pas du tout les mêmes combats. De quoi tu parles? Genre de la scène de combat de Batman vs Superman. C'est Superman qui a Batman qui a fait le montage. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu compares ça? Ça n'a rien à voir. Tu racontes des conneries.
C'est toi.
Arrête de dire des bêtises. Mais t'es complètement fou. Tu compares deux choses qui n'ont rien à voir. Et même le combat de Batman non plus n'a rien à voir.
Le précision du montage. La mise en scène n'a rien à voir.
Mais on réfléchit pas à la montage de la même manière non plus. Ça n'a rien à voir, le combat.
Mais... pas... Honnêtement, vous parlez trop fort, on vous en
fout. Tu racontes des conneries, ça a absolument rien
mais
à voir.
J'ai pas dit que ça avait quelque chose à voir, mais je vais dire.
Alors pourquoi tu veux le montage si ça n'a rien à voir?
Mais je t'ai pas dit que le montage était le même, j'ai dit qu'il y a une logique de montage pour une scène. Ils ont une logique de montage pour une scène. Justement, il y a une cohérence dans le combat de Smallville, t'as une cohérence de montage par rapport à la scène, au mouvement de caméra, au choix de plan, machin. Dans celle de Batman et Superman, t'as juste un montage super générique. Comme
il est pas super générique, il y a des trucs de ouf. Genre quand il a fait Blue Superman, il a même le temps de lui dire des répliques et tout. Et non mais justement ça montre que justement il y a une réflexion, c'est-à-dire c'est pas la même chose, il y a des montages différents.
C'est limite trop explicatif dans ces séquences-là, mais bon.
C'est pas trop explicatif, il lui donne des répliques. En plus, il donne des répliques iconiques qui n'existent pas non plus dans Marvel.
Le début de Justice League avec ce combat de Batman sur le toit. Où les mecs te font carrément des ellipses dans les mouvements, genre ils te font un mouvement ralenti, et puis d'un seul coup, hop, le mec il a déjà tapé le mec par terre. Et...
Mais ça c'est une logique de technicien, on s'en bat les couilles.
La scène a été coupée.
Ouais, mais ça sort déjà.
C'est le montage. Après, faut bien juger ce que t'as sous les yeux.
Ça t'intéresse dans un film ça? Ça t'intéresse qu'il y a, genre, il y a un faux raccord,
les monteurs.
Moi ça m'intéresse la fluidité du montage qui va magnifier le mouvement dans des scènes de combat. Peu importe la.
Mais là, t'es pas dans un film, je sais pas, t'es pas dans The Raid, là, mon gars.
Mais oui, c'est ça, je comprends pas ce que tu racontes. Genre, on te demande.
Mais moi, dans un Jackie Chan, là, mon gars.
Mais
de quoi tu parles?
On a juste ça dans les faux raccords.
On a vu du Wayne Murphy ou quoi, là? T'as un géant, là, ou quoi?
Quand t'as un combat entre des dieux, t'as
mais c'est pas un combat, il l'a affaibli et tout, il est en train de lui maraver d'où la gueule, c'est même pas un combat.
C'est bon, Hulk McAlany, il est content, il a fait son caméo, on s'en bat les couilles.
Par contre, là, vous justifiez encore les
faits. Mais rigole, là, je suis
un peu. Bien sûr, j'utilise un pour encore en France la nouvelle.
Ouais, oui, c'est un peu déconné. Non, mais sérieux,
de toute façon, on a gagné, on vous a dit.
Mais c'est un justifié la fora quand on est dans le pays de Godard et tout.
Quand t'as les moines Shaolin qui arrivent dans Batman v Superman, c'est vrai que c'est un peu déconné.
Ah, parlons des ninjas dans Daredevil, par là.
On va pas le savoir, on n'a pas en parler des films
Marvel. Je suis comme là, c'est mort. On arrive à Suicide Squad, je pense que non.
C'est effectivement un élément important. Qu'est-ce qu'on attend et pourquoi est-ce qu'on va avoir un blockbuster hollywoodien? Et moi, ce que je disais, c'est effectivement, des fois, c'est juste. La cohérence interne au scénario d'une scène qui a pu me sortir de Man of Steel, c'est la cohérence. Moi, Batman vs Superman, j'ai apprécié jusqu'au moment où il y a ce flashpoint et où tu as cette scène dans le futur qui n'a pas de rapport avec le film et où j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce que le film est en train de me raconter. La scène est pas mal sinon. Mais du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que
c'est? Sachant que ça se justifie même pas après dans Justice League.
En fait, je sais pas. J'ai toujours pas compris ce qu'il veut me dire dans.
C'est maladroit parce qu'ils essaient de rattraper quelque chose.
Et du coup, le problème de l'univers DC au cinéma et qui a été atrophié dans Suicide Squad, c'est qu'en fait, on voit les coutures de la production qui impose des choses aux réalisateurs alors que la promesse de base, c'était de laisser des réalisateurs s'exprimer. Contrairement à ce qu'il y avait en face. Du squad de David Ayer, bon, c'est exactement le cas. Puissance
catastrophe industrielle, c'est pas un mauvais nom plus.
On est en train de nous montrer. Et ça me pose un problème.
Ouais, mais là,
et pour revenir au Marvel.
Oui, mais aucun film Marvel avec un Oscar.
Non, mais je parle pas forcément de film Marvel, mais même dans Iron Man 3 ou dans des. J'ai pas envie de défendre forcément Avengers, mais il y a une cohérence interne, une cohérence du début à la fin.
C'est logique, c'est les producteurs tout puissants qui sont là et qui disent ta gueule au réalisateur.
C'est juste un film qui est bien produit plutôt qu'un film qui est maladroitement produit et dont on voit tous les défauts. Tous les défauts sont finalement.
Je suis d'accord, mais même dans ce qu'il y a de raté, je suis d'accord, on les voit les coutures, on les voit les maladresses, on les voit les rajouts, on les voit. Mais il y a une âme.
Ils n'ont pas la même visée de base. Là.
Non, mais il y a une âme. Et
ça, on sera d'accord là-dessus.
Il y a une portée cinématographique
qui n'est pas chez Marvel. Marvel, quand ils vont Avengers, ils disent on va faire un film cool, drôle, fun. Mais c'est juste. C'est leur
vision. Non, mais justement, non. Parce que Thor 3, c'est cool, fun, etc.
Après, il y a quelque chose. Mais le premier Avengers, ils ont pas voulu prendre de risques. Ils ont dit ouais, on va rassembler tous les héros qui ont fait un peu le succès des films solo qui ont du succès en salle et on va pas prendre risque.
Oui, mais t'as zéro ambition.
Mais je suis d'accord.
Les mecs, Michael Bay te fait
mieux que Transformers 3.
Ils ont pas zéro ambition. Mais si, il te fait la même scène en 10 fois mieux.
Oui,
et c'est Michael Bay
parce qu'il a fait Transformers 3. Je sais, je vais pas contredire.
Mais
c'est mieux. C'est 10 fois mieux, il y a Patrick Dempsey dans la scène. Il y a Patrick Dempsey, mon gars. Et il te fait mieux.
Mais en fait, pour résumer, on va dire que Marvel, en fait, l'objectif,
oui,
c'est l'objectif, malgré l'univers, tout ce que vous, c'est de faire des bons produits.
Oui.
Voilà. Et ils y arrivent globalement. D'ici, il y a plus d'ambition. Mais malheureusement, ça a été parasité par
la
volonté de.
Moi, ça me va.
Non, parce que là, ça l'accuse, c'est schizophrène, et finalement, ça.
Moi, je préfère la schizophrénie à la monotonie, là.
Non, mais Justice League, c'est pire que.
Dans ce phallogramme plat, moi, je préfère la schizophrénie. Non,
mais comment. Si on voit Justice League, par exemple, qui est l'aboutissement, voilà, des problèmes. Je dis pas l'aboutissement esthétique, je dis l'aboutissement des problèmes qu'a venu le.
En fait, nous, on veut que ça, que d'ici.
Comment est-ce qu'on peut.
Parce qu'on sait que ce sera. Parce que
moi, la démarche,
c'est ma question. Le film, je le défends pas, mais justement, parce que les producteurs ont vraiment, pour le coup, ils ont vraiment pris le dessus. Là, le réalisateur n'existe plus, ou les réalisateurs n'existent plus. Et il y a Marvel qui vampirise tous les blockbusters actuels, y compris Warner.
Ah, mais c'est pas de leur faute.
Mais si, c'est le modèle Marvel,
parce qu'ils imposent un modèle. C'est le public qui impose un modèle en allant voir.
Mais le public, on leur chie dessus, le
public. Arrête de dire ça, le problème.
Arrête de dire que le public, il est bien quand même.
J'ai pas dit ça.
Non, mais on fait des films pour le public. Maintenant, il y a un service après-vente. Alors là, bon, bah là, les cheveux.
Non, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai. Les cheveux de Scarlett Johansson, ça m'a pas plu. Je veux une teinture rouge.
C'est pas Marvel qui écoute ça, je suis désolé. Mais si,
c'est Marvel. Mais si, c'est Marvel qui...
Non, c'est parce que le public, quand il y a des propositions un peu différentes, on a eu Edge of Tomorrow, on a eu des bons blockbusters ces années qui n'ont pas marché.
Je vais revenir sur le
c'est juste que les gens vont pas voir...
Parce que...
Attends, Jérémy, j'ai reçu, ils ont embauché un chef-op. Je pense que ça leur a coûté le budget de la teinture de Scarlett Johansson. Je pense qu'on peut faire ce sacrifice-là pour avoir une belle image.
Non, mais le problème, c'est que t'as raison. Le problème, c'est pas que Marvel. Le problème, c'est aussi les gens qui considèrent les films comme des produits qu'on peut arranger à sa
guise. Les gens.
Mais hashtag les gens, mais parce que les gens, ils arrivent, ils sont sur Twitter. Moi, ça me plaît pas, la 49e minute, il y a un truc, elle porte un truc en cuir, là, ça me plaît pas.
Tu peux pas dire que les problèmes de Justice League, ça vient, en fait, des
non, ça vient des producteurs qui sont dans une logique commerciale et qui suivent le mouvement.
Mais ça, c'est pas étonnant.
Ce qui est intéressant,
c'est toujours
moi, c'est étonnant.
Bien sûr,
non, parce que ça donne des produits. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, Marvel est devenu le standard de production qui réussit. C'est ça le problème.
Là, Disney, ils essayent, ils font Lone Ranger, ils font John Carter,
ils font
Brad Bird qui s'est vautré.
Non, c'est pas bien, c'est
ils ont essayé les films, mais ça marche pas.
On dit pas que c'est bien.
Je pense que on dit pas que c'est bien.
Je pense que Justice League ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si Zack Snyder n'était pas parti. Simplement, je pense qu'il aurait pu.
Non, il s'est fait bouffer.
Non, mais je pense que même si Justice League avait été raté, ça aurait été. Je pense au moins, au minimum, comme Batman versus Superman, avec des belles fulgurances. Il y aurait eu quand même des choses à sauver.
Je sais pas,
là,
parce
y a rien.
Je sais pas, parce qu'ils ont tellement voulu marveliser le truc.
Non, mais même, il y aurait eu, ne serait-ce que visuellement, ça aurait ressemblé à autre chose.
À Marvel Studios, on sait que c'est dirigé par Kevin Feige. Au moins, les films ont une signature, ne serait-ce que la signature du producteur, qui laisse ensuite, effectivement, des réalisateurs qui sont des employés. Pourquoi pas? Pour moi, ça donne des films qui sont des produits, qui sont
peuvent être corrects,
mais voilà, mais vous vous contentez de. On vous donne du caca, vous donne des caca et vous dites, oh, finalement, c'est pas si
mal. Mais c'est pas quoi?
Arrêtez de dire que c'est
rien. Mais j'ai même pas vu, je m'en bats les couilles. Moi, je défends Zack Snyder, mon gars.
J'ai pas fini.
Le problème, c'est un spectre, le cinéma, c'est très large.
Mais justement, c'est pas si pour la. Non, mais hashtag les gens. Pour hashtag les gens, c'est pas si large que ça,
le mec.
Il ne voit que les Marvel. Il ne voit que les putains de Marvel.
Mais pas aussi de la pop culture du 21e siècle. Vous comprenez pas ça?
Oui!
Un jour, moi, ce que j'espère, c'est que DC fasse un vrai film réussi.
Et ben, Man of Steel.
Oui.
Batman vs Superman, version longue. The Dark Knight.
Oui, non, mais.
Batman Begins.
Ça serait bien.
Il faut oublier un truc quand.
Green Lantern. Même moi, je n'ai
pas
su.
Faut pas oublier un truc sur Batman vs Superman, c'est que quand ils l'ont annoncé en l'été 2013 après Man of Steel, c'était dans le but de faire une suite de Superman, qui n'était que la suite de Superman, c'était de faire en gros déjà du. Comment appelle ça, du change. Le course. Quand on change de. Pas de damage control, mais. Bon, bref, ils ont inclus Batman parce que c'était une décision commerciale. À l'époque, on n'a pas demandé à Zack Snyder de faire, entre guillemets, de se vendre par rapport au projet. On lui a dit de faire un film Batman v Superman. On ne lui a pas dit de faire un film comique. On ne lui a pas dit de minimiser les efforts faits sur le film. On lui a dit fais un film Batman v Superman. Et je pense qu'il a fait le film le plus gros possible sur le sujet. Peut-être parmi un milliard de scénarios
et de combinaisons possibles par rapport à cette rencontre-là.
Avec l'introduction, et c'est le troisième film, de Dawn of Justice, qui est le sous-titre voilà. du film, qui n'était pas encore prévu quand il devait faire Batman vs Superman. C'est une troisième étape.
Exactement.
Tous les problèmes viennent de là.
Mais ce qui est intéressant dans cette logique-là, c'est qu'à l'époque, on ne se posait pas encore le questionnement de la légèreté des films DC Comics. Bah, on a dit fait un film Batman et Superman, c'est tout. Le mec, il a fait quand même le film le plus lourd, le plus ample et très violent.
DC avait sorti qu'il ne voulait pas d'humour dans leur film.
Exactement.
Mais l'humour, c'est mal. Parce que l'humour, c'est
le cache-misère de
l'humour dans un film de super-héros, c'est la punchline Marvel. Mais oui.
Je vais mettre une bannière mauvaise foi.
Non, l'humour, c'est Robert Downey Jr. Qui sort sa putain de punchline.
Et pour finir, j'ai l'impression qu'ils ont abordé les autres BVS comme un graphic novel cinématographique. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait un film en trois actes, ils ont fait, limite, un graphic novel, quoi. Avec ce que ça, implique en termes d'ampleur, mais ce que ça aussi d'impact négatif en termes d'écriture. C'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient fait un film Watchmen. Sans la source initiale, c'est comme s'ils avaient fait un film Batman v Superman en disant.
Oui, l'idée de l'introduction de Batman à la base, c'était Dark Knight Returns de Frank Miller, voilà. Qui a été complètement perdu de vue et dont il reste deux plans en fait dans le film.
Il reste des postures en fait.
Exactement. Mais c'est pas grave, on s'en fout.
Je pense que cette logique-là, c'est pour ça que ce film n'a pas cette structure en trois actes plus fluide, c'est parce que. Ça me dérange pas, mais c'est comme. C'est la continuité de Watchmen, un graphic novel mouvant, quoi.
Oui.
Mais est-ce que l'hypocrisie, c'est pas finalement de dire, Marvel a imposé une espèce de système où tout marche effectivement suivant les attentes du spectateur, alors que finalement Marvel Studios, je les vois devancer à chaque projet les attentes du spectateur. Quand ils font Gardien de la Galaxie, il n'y a personne qui les attendait. Quand ils ont annoncé, même par accident, on en a parlé tout à l'heure, des scènes post-génériques, il n'y a personne qui attendait ça dans un film, alors que c'est DC, Warner DC, qui finalement, à l'issue des critiques de Batman vs Superman, a demandé à Snyder de revoir sa copie de Justice League. Et il y a eu une première réécriture à ce moment-là. Puis il y a eu une deuxième réécriture par rapport aux deuxièmes critiques qui avaient été faites par effectivement des spectateurs de BBS.
On en revient.
Et ensuite, vu l'événement tragique, il y a Josh Whedon qui est arrivé et ça a changé complètement la donne.
C'est pas
la faute de Marvel.
Oui, non, mais Marvel, ils sont très bien. Marvel, ils sont très bien.
Où ils suivent ce que veut faire Marvel.
Mais s'ils travaillaient chez Apple, ce serait cool. Ils seraient devancés les attentes du public. C'est bien, on te sert l'iPhone 13, l'iPhone 14. Ils seront contents. Mais là, on parle de cinéma, quoi. On parle pas de.
Non, mais à la rigueur, là, Man of Steel, Batman vs Superman, on aime ou on n'aime pas. Il y a des ratés, il y a des choses réussies. Mais bon, il y a quand même des choses à sauver. Par contre, après, Suicide Squad. Wonder Woman.
Wonder Woman, c'est un bon petit film.
Wonder Woman, ça a la qualité et les défauts des films Marvel.
C'est la Avengers. Wonder Woman, c'est le film qui se rapproche le plus de Captain America, justement.
À part la fin ratée.
Wonder Woman, c'est un film de la phase 1 de Marvel et il semble déjà extrêmement daté, même en le voyant aujourd'hui. C'est-à-dire que.
Pourquoi vous l'avez mis comme vos préférés?
Il y a des choses qu'on a déjà vues à l'époque et. Quand par exemple Marvel fait une Origin Story aujourd'hui avec Doctor Strange, ils n'utilisent pas les mêmes recettes qu'il y a dans
quand
Wonder
même,
Woman.
Il y a quand même une construction. Objectivement, oui, c'est du Iron Man avec de la magie, il faut dire la vérité.
Et Wonder Woman,
c'est quand même. Sauf que Doctor Strange, il y avait un vrai travail visuel.
Oui, ouais.
Et ils ont créé quand même.
Parce qu'il y a eu les moyens qui sont venus avec, il y a l'ambition.
Il y a un effort visuel dans Doctor Strange que tu n'as pas dans les autres.
Oui, mais en même temps, c'était obligé sinon.
Oui, non, mais avec un perso. Non, mais c'est le perso.
Sinon, ça ne servait à rien de faire un film Doctor Strange,
oui, c'est le personnage qui veut ça, quoi.
Voilà, oui, mais au moins le film, il y a quelque chose de nolanien là-dedans, quoi. Inception.
On va peut-être conclure. Fabien, je te laisse.
Je disais, ce qui est magnifique avec Wonder Woman, c'est que c'est un film qui a cartonné, toutes les critiques ont trouvé ça génial, alors que tous les problèmes qu'on reproche à Man of Steel en termes de posture du héros qui exécute les gens, qui tue les gens.
Mais non, mais c'est Wonder Woman,
c'est une exécutrice.
Oui, moi ça me pose pas de problème.
Bah, moi ça me pose problème idéologiquement quand elle tue sciemment un mec en disant je te tue au nom de machin.
Et puis c'est des nazis.
C'est...
Ah non, c'est la Première Guerre mondiale.
C'est des nazis des années 10, attention.
C'est des chleux quoi. C'est des... On les bute.
Voilà, moi ça m'emmerde parce que genre Superman qui doit tuer le mec, ok, on en fait tout un plat, mais par contre elle qui bute sciemment des boches dans une tranchée.
Mais c'est une femme, elle a souffert.
Et son mec qui meurt dans l'aéroplane.
Et pire que ça,
d'ailleurs, ça putain c'est vraiment tragique.
Et pire que ça, le méchant ultime c'est forcément un Allemand, alors qu'il n'y a pas de raison que Première Guerre mondiale, les grands méchants.
Non, le méchant est un Anglais.
Non, mais je veux dire, avant le twist, voilà.
Oui, mais justement, le twist est important. Ça veut dire, en fait, les vrais méchants c'était les gentils et le monde est plus compliqué.
C'est ça qui est intéressant.
C'est mon gars. C'est qui les vrais coupables? C'est qui?
C'est Bush.
On va faire un dernier tour de table.
C'est dommage, je n'ai même pas parlé de la Fox, du coup.
La Fox, c'est
bien. Il y a un vrai bon film.
Et donc, du coup, le meilleur film était le film X-Men, First Class, Day of Future.
Pour le coup, les vrais bons films, ils sont là-bas.
Je crois que ça fait à peu près 3 heures, donc du coup, c'est quand même très long.
Bon, on part sur la 4ème heure, la Fox.
Un dernier tour de table sur ce que sont vos attentes sur les films de super-héros. Pour les années à venir, ce qui est.
Et pourquoi chez X-Men
Marvel, du coup, c'est.
Que Marvel s'effondre.
C'est assez, c'est assez précis. D'ici, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous attendez? Je vais commencer. Voilà, pour lancer le mouvement. C'est vrai que moi, ce que je reproche à Thor Ragnarok, c'est le fait de ne pas du tout insister, de ne pas du tout prendre en charge, en fait, le caractère tragique que je pouvais percevoir à la fin de Captain America First Avenger. Et finalement, la chute de Asgard. C'est contrebalancé par une petite vanne et par une blague, et du coup tout le monde s'amuse.
Ah, bah oui, on s'en fout, son monde est détruit.
Et ce que j'attends de Black Panther.
Justement, mais non, mais c'est ce qui est marrant.
Ce que j'attends de Black Panther et de Avengers Infinity Wars, c'est justement reprendre en charge ce caractère tragique qu'ont les personnages et qu'ont toujours eu les personnages. Voilà, la première bande-annonce d'Avengers que tout le monde a salué. Du coup, il n'y a pas de blague, sauf le petit clin d'œil à la fin sur l'apparition des Gardiens de la Galaxie. Ouais. Ça a l'air d'être soigné visuellement. Et moi, c'est ce que j'attends. C'est-à-dire voilà, avoir un vrai film épique. Ce que m'ont pas, d'ailleurs, procuré les deux premiers Avengers, que je trouve complètement raté. Et du coup, c'est ce que j'aimerais voir prendre en charge par Marvel.
Et c'est ce qu'il y aura, parce que tout le monde l'a demandé. Donc, et du forcément, côté de, ils vont le faire. Hein.
Et du côté de DC, avoir une vraie, alors il y a peut-être un flashpoint qui est annoncé, ouais. Mais en tout cas respecter ce qu'ils ont annoncé à la base, c'est-à-dire donner à des réalisateurs, que ce soit James Wan pour Aquaman, même Josh Whedon pour Batman, mais en tout cas les laisser faire le film, quitte à ce que ce ne soit pas un univers partagé.
Et là, Batman à Sam Raimi, bordel.
Et aussi il y a Suicide Squad 2 sur Fan David d'ailleurs.
Du coup, on va faire un tour de table, je vais vous laisser avant la conclusion là-dessus, sur voilà, ce que vous attendez sur les années à venir pour les films de super-héros. Nicolas.
Bah justement, le Batman de Matt Reeves, là, ça peut faire peur justement par rapport au fait que le studio, enfin Warner, ils voulaient prendre la main sur les dernières productions. Mais de ce que j'ai lu sur les premiers trucs, apparemment Matt Reeves a vraiment imposé, des conditions dès le départ. Mais il a vraiment imposé des conditions dès le départ. Si vous me faites ça, je me barre tout de suite. Et comme le projet a eu beaucoup de mal avec Ben Affleck qui est parti, personne ne veut le faire. Warner a tellement peur que si là Matt Reeves s'en va, ça tue définitivement le projet, que j'ai l'impression qu'il va avoir, grâce à ça, plus de liberté. Bon, on verra, peut-être que Warner dise au début, ouais, tu peux faire ça, puis en mission, finalement, tu peux pas. C'est ce qu'ils font un peu après à chaque fois, c'est un peu chiant. Mais du coup, le fait que ce soit un réalisateur vraiment talentueux, parce qu'on a eu le dernier opus de La Planète des Singes, c'est monstrueux en termes de storytelling et de pur divertissement, c'est une tuerie absolue. Et ce qui peut faire la même chose avec Batman, ça peut être monstrueux. Mais encore une fois, la question du studio qui va se poser. Mais là, j'ai l'impression qu'ils n'osent pas trop lui mettre de bâton dans les roues, parce que s'il se barre, c'est fini, quoi. Avec tout. Et deuxième espérance, j'espère bien aussi, juste dans la même continuité, j'aimerais bien qu'un jour, Phil Lord et Chris Miller fassent un vrai film de super-héros sans qu'ils se fassent virer en cours de production aussi. Et sans qu'il y ait aussi des
bâtons. Ils l'ont déjà fait, Batman, Lego.
Ils ont fait
The Lego.
De toute façon, c'est de la merde.
Mais un vrai film de super-héros avec la vraie mythologie qu'il y a derrière et tout. Et ça peut être, ce sera sûr que ce sera vachement bien, mais le problème, c'est. Ils sont fait virer du
Han
Solo.
Chez parce Disney, que... ça va être compliqué. Ouais. Mais du coup, pourrait les faire venir pour un Harley Quinn.
Je sais pas ce que vous avez fait lors des Chris Miller où ils sont venus.
Justin.
En fait, moi, je suis content. Donc en fait, moi, j'ai pas énormément d'attentes. En fait, parce que j'ai l'impression le genre de film super-héros était plus intéressant quand il se cherchait un peu au début des années 2000. Là, ça me semble Marvel, même si j'aime bien, ça me semble assez calibré. Ils vont pas tout révolutionner d'un seul coup. Donc ça va rester dans la même tambouille. On aura des bons films, on en aura des moins bons à chaque fois. D'ici, à moins qu'ils reviennent à une politique de one shot, voilà, où on oublie les univers partagés, qu'ils fassent voilà, des one shot, ou quitte à faire des sagas, mais une saga voilà, personnage par personnage, sans vouloir. D'ailleurs, pour globaliser au-delà des super-héros, tous les studios qui ont essayé de copier Marvel, comme quoi c'est pas si simple. Il y a Universal qui a essayé de le faire avec Universal Monster, ça s'est cassé la gueule complètement, les films sont catastrophiques. T'avais eu d'Hercule Antol du une première tentative.
Il y a eu plusieurs faux départs fait, sur.
Mais ça comptait pas justement dans Hercule Antol.
Bah non, mais parce qu'ils l'ont dit après, ça compte pas.
Bah, c'est vrai, c'est juste.
Et encore, c'était pas bien, mais si tu compares avec la momie, c'est du
stress. Après, c'est venu le Tom Cruise Monster, donc.
Donc
Tom Cruise Verse.
Donc Tom Cruise, voilà, le côté univers partagé, voilà, tout le monde n'est pas capable de le faire, donc globalement qu'on oublie et puis qu'on se remette à faire des choses un peu qui fonctionnent individuellement. Quoi.
Et après, non.
Dans un futur proche, j'attends le X-Men New Mutant là, qui a l'air bien,
ça
a l'air assez original et tout, ouais. Et sinon, dans un futur lointain, j'espère que Marvel va mourir brûlé et tout et va être détruit dans sa propre bêtise.
Toujours dans la sobriété.
Après avoir retranché le cinéma dans sa connerie la plus profonde.
Ils vont peut-être te surprendre, ils vont peut-être faire des films que...
Non, je pense pas. Et après, j'espère que Zack Snyder va se casser de...
Ah, mais c'est fini, je pense.
Ouais, il a fini, donc j'espère qu'il va faire...
Et si Marvel engageait Zack Snyder?
Mais là, peut-être au revoir.
En fait, il est pas fan de DC, il est fan de Zack Snyder.
Et puis
Suicide Squad 2, quand même, on est impatient.
Et oui, et j'attends le Deathstroke de Gareth Evans parce que ça a l'air cool. Et le Aquaman de James Wan, puisque James Wan, c'est quand même l'homme qui lance des franchises à peu près chaque film qu'il fait. Donc,
Par contre, si les scènes aquatiques ont la même gueule que celles de Justice League...
Il paraît déjà que les dialogues dans les bulles d'eau, là, c'est fini. L'espèce de bulle pour discuter de bon ça, il a dit non, moi je...
Mec, c'est James Wan, c'est un génie, t'inquiète même pas, il va pas vous faire votre truc Marvel de con, c'est James Wan.
Non mais oui,
merci. Très bien.
Alors moi, le film de super-héros que j'attends, il est encore en développement et je crois qu'il est passé en phase d'écriture, c'est même pas une adaptation comique, c'est une adaptation de jeu vidéo, puisqu'il s'agit de Rockman, donc Megaman, qui a été sécurisé, je sais plus par quel studio, je sais plus si c'est Paramount ou Fox, je sais plus. C'est les réalisateurs de Nerve, donc un film qui était sorti l'année dernière. Ouais. En Rijus et Ariel Wallman là, qui sont sur le projet. Ça m'intrigue autant que ça m'inquiète. Parce que j'adore ce personnage, je suis un très gros fan de
Mais du coup, est-ce qu'il y a des japonais sur le projet?
Je sais que Capcom garde un œil dessus. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de voir ce personnage adapté au cinéma et ça m'étonne qu'il n'a pas encore été fait.
Parce qu'adaptation de jeux vidéo, c'est Tchernobyl.
Voilà, c'est très compliqué à faire, mais si y a un bon script derrière et des gens avec une vision qui tendent un peu vers la japanime. Pas non plus à un degré morbide comme Ghost in the Shell, mais je pense que si ils savent utiliser les bonnes références et utiliser un script qui adapte bien le jeu vidéo et pour en faire un film, je pense qu'il y a matière à faire un truc très sympa. Et ça changerait des autres films de super-héros. Je pense qu'il y a une vraie alternative à faire avec ce personnage, avec cette licence. Maintenant, faut bien le faire et il faut débloquer des fonds aussi pour le faire parce qu'il y a tout un univers méca futuriste à créer et ça, s'ils le font au rabais, ça va être raté quoi. Mais donc, c'est pour ça que c'est le seul projet qui m'intrigue de par sa nouveauté. Après, je suis très content que Matt Reeves fasse Batman, même si je pense qu'il y a un gros boulot à faire sur le script parce que les scénarios des Planètes des Singes sont bourrés de conneries en termes de script, en termes de mise en scène. Ouais.
je lui fais confiance, franchement, s'il nous fait un truc comme le dernier Planète des Singes où il y a des travails sur les ambiances, sur l'absence de dialogue et tout ça, ça va être superbe. Mais je pense que pour Batman, il faut pas faire un reboot dans le sens où il faut raconter l'histoire à la Batman Begins, il faut faire un concept. Moi, je voudrais voir, par exemple, un remake de Collateral, mais avec Batman, c'est-à-dire un film qui se passe sur une seule nuit, avec Batman qui en baffe pendant toute une nuit, genre un remake de Die Hard 3 où l'homme mystère pose des trucs un peu partout dans Gotham City et Batman a toute une nuit pour trouver l'énigme. Un vrai film de concept.
De toute façon, le scénario a été repris à
zéro, mais je pense que...
C'est des bases complètement nouvelles.
Ouais, mais il a dit qu'il se concentrait sur refaire un film noir, en fait.
Oui, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que, comme le western, le film de super-héros, à un moment donné, va décliner parce qu'on aura eu tellement de variations, tellement de propositions qu'à un moment donné, on va revenir à des films comme Logan où ça va être comme ça, par moment, des one-shots. On va proposer des concepts. Et je pense qu'il faut revenir plus sur l'idée de concept que sur l'idée de licence. Donc on va voir. Peut-être que là, effectivement, pour Kefren, c'est quelque chose de très morbide, de très mortifère, mais je pense qu'à un moment donné, le genre va se freiner et peut-être se restabiliser vers quelque chose, j'ai envie de dire, peut-être de plus viable cinématographiquement.
Ouais, non, enfin, mais moi j'attends ça. Si justement c'est comme le western avec le jeu de moment, j'attends le Sam Peckinpah de l'adaptation de comics.
Flavien.
Moi personnellement, en fait, j'attends plus de voir ce qui va se passer du côté de Marvel, parce que ce qui se passe avec Black Panther, j'ai l'impression, enfin, que ça a l'air un peu différent, mais le problème, c'est voilà, tant qu'on voit pas vraiment.
Après, bande annonce, ouais, la donne envie, quoi.
La bande annonce donne envie et les affiches promo aussi. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui sont, on sent qu'ils ont quand même travaillé, qu'ils sont allés chercher en fait. Au niveau des histoires des tribus africaines et tout, il y a vraiment quelque chose au moins d'esthétique qui a l'air recherché un petit peu, et donc du coup moi je suis quand même assez intrigué et j'attends de voir ça. Pareil sur Thor Ragnarok, on a vu sur la fin que Thor physiquement aussi changeait, il est devenu borgne, tu le retrouves aussi dans le nouveau Avengers.
Vous spoilez,
donc du coup en fait donc du coup, il y a peut-être quelque chose de plus tragique, peut-être qu'on pourra peut-être retrouver. Je ne sais pas si
ils veulent
amorcer une nouvelle phase dans l'univers Marvel et tout. Donc peut-être que ça peut être pour le mieux. Après, évidemment, du côté d'ici, parce que j'aime beaucoup Batman, voilà, j'attends Batman de Matt Reeves. Et là, il y a eu une proposition aussi au niveau Japanime avec Batman Ninja, dont j'ai vu la bande-annonce hier, et du coup je suis assez intrigué, et ça rejoint un petit peu ce que disait en fait Fabien, c'est-à-dire que là où ça devient intéressant maintenant, c'est quand on fait des concepts autour de ces personnages-là.
Batman Ninja, ça a l'air fabuleux, hein, d'ailleurs, le trailer, c'est démentiel. Hein.
Mais voilà, quelque chose de complètement inattendu, oui, que j'aurais jamais imaginé, on m'aurait dit simplement ça, comme ça, je lui dis, enfin voilà, Batman Samouraï, machin... ça m'aurait pas tellement parlé, mais là, vu là comme ça, ça a l'air assez dynamique. Et voilà, c'est une proposition parmi tant d'autres. Voilà, je pense que voilà, c'est.
Jérémy, pour conclure.
Moi je suis curieux de voir la suite. J'ai envie de voir des cinéastes qui, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui s'attaquent à voilà un peu un peu anarchiste et qui s'attaquent à niquer un peu ce putain de système qui est en train de nous. Non mais qui est en train de nous bouffer le cinéma divertissement là, qui est un peu uniforme. Et j'aimerais bien que voilà comme Waititi a essayé un tout petit peu de faire sur Thor 3 timidement, mais il l'a quand même essayé. Et j'ai envie qu'il continue sur ce chemin-là, à essayer de parasiter un peu cette mécanique trop bien huilée quoi. J'ai envie que ça pète quoi. Voilà.
Ok, bon bah rendez-vous en 2018.
Toi t'as pas de.
Si, bah j'ai commencé en fait.
Tu suis toi.
Je suis attentif.
Donc, rendez-vous en 2018 pour la suite de ce débat dans les podcasts hors série, hors Asie, et dont le premier podcast qui aura lieu en 2018 qui sera le bilan de l'année cinématographique 2017. Donc, on fera
le bilan quand même.
Exactement. Un podcast Eastasia et un podcast Eurasie, donc qui sera aussi hors série. See you, Space Cowboys. You're telling me that the king of a third world country runs around in a bulletproof cat suit? Why don't you ask him yourself? Because he's right outside. Bingo. My king. Stop it. Be
way Black Panther lives.
A war is coming.
That damn car.
Watch me do my.
I hope you're ready, bro. Cause I'm just getting started. Let's have some fun.
You show off.
They don't wanna see me getting to the shit. They just wanna see me swimming in the deep. Don't drown on ground with a team.
I want your weapons.
How you wanna play?
Your secrets.
Ops on the radar.
It's all mine now.
Is this your king? This ends today.